Le journal de 18h, bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Le quartier de la Défense bloqué aujourd'hui par des centaines de militants écologistes, des actions de désobéissance civile non violentes et inédites par leur ampleur. Le gouvernement, lui, craint le pire pour demain, 23e épisode du mouvement des Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur met en garde contre les casseurs à Paris en particulier. Les policiers, entre colère et émotion, les suicides dans leur rang se multiplient, ils ont manifesté aujourd'hui. Ils portaient plainte pour diffamation, Denis Baupin est finalement condamné pour procédure abusive. Les femmes qui l'accusent d'agression sexuelle ont été entendues. Elles sont aujourd'hui soulagées. Et puis notre conseil culturel du vendredi soir, c'est au Printemps de Bourges. Un clin d'œil au film 120 battements par minute. Ce soir sur scène, Aloïse Sauvage et Pierre Robottini. Du soleil encore demain matin. La météo complète à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
C'est donc une nouvelle forme de protestation.
Peut-être les manifestations de demain. Des militants pour défendre le climat ont mené aujourd'hui des actes de désobéissance civile. Et la nouveauté, c'était leur nombre. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Amélie.
Vous les avez suivis. Plusieurs centaines de volontaires se sont emparés de lieux symboliques, à la Défense, le quartier d'affaires près de Paris, pour dénoncer donc des scènes de crimes climatiques.
Ouais, vous les entendez vers 8h30 ce matin, des dizaines de militants de Greenpeace ou d'ANV COP21, Action non violente COP21, ont réussi à rentrer avec quelques journalistes dans le hall de la tour EDF. Très vite, ils ont bloqué les ascenseurs, les escaliers, certains même en s'enchaînant au portique. Et en effet, ils ont déroulé de grands rubans pour créer des scènes de crimes climatiques, comme dans les films. Des portraits d'Emmanuel Macron occupent une grande partie de l'espace. En réalité, cette désobéissance est surtout un acte politique contre le gouvernement.
Nous on colle en fait donc des affiches dénonçant l'inaction gouvernementale en fait et la coalition qu'il y a entre le gouvernement et les entreprises climaticites.
Qu'est-ce qui a marqué sur les affiches ?
Macron, président des pollueurs.
Voilà, Macron, président des pollueurs. Et pour ces militants qui accusent le gouvernement d'inaction climatique, le problème vient également des entreprises qui défendent avant tout leurs intérêts. Alors pourquoi EDF ? Pour sa connivence avec l'État actionnaire, répond Alix Mazzoni de Greenpeace.
EDF aujourd'hui, c'est une grande maison qui a la capacité et la responsabilité de changer les choses, d'investir dans les énergies renouvelables. Sauf qu'aujourd'hui, elle choisit d'investir massivement dans le nucléaire et de sous-investir dans les énergies renouvelables. Et tout cela bloque la transition énergétique en France, en Europe. On voit la mainmise d'EDF sur la politique énergétique française. Il représente cette république des pollueurs qui bloque l'action climatique, qui bloque la transition énergétique.
Alors de son côté, la direction d'EDF a décidé de placer la tour et ses salariés en confinement. Pas d'entrée ni de sortie possible jusqu'en milieu d'après-midi. La police est venue déloger les militants vers 16h. Le déblocage est en cours également en ce moment au siège de Total et à la Société Générale. Prochaine action le 24 mai, mais une fois encore, les ONG ne préciseront pas leur cible potentielle.
Merci Célia Kiré pour les questions d'environnement à France Inter. Et cette opération s'inscrivait dans la semaine de la rébellion organisée partout en Europe, notamment à Londres, où depuis quelques jours, des militants bloquent des lieux emblématiques comme Oxford Circus. Près de 500 d'entre eux ont été arrêtés depuis le début de la semaine. Eux vont manifester à l'ancienne et le ministère de l'Intérieur semble craindre des débordements de la part des Gilets jaunes demain. C'est le 23e samedi de colère. Plus de 60 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés partout en France. Les casseurs, d'après le ministre Christophe Castaner, se sont donné rendez-vous à Toulouse, Montpellier, Bordeaux et surtout à Paris.
Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars. C'était l'ultimatum 1. Ils ont depuis appelé à l'ultimatum 2, intitulé « L'acte ultime, Paris, capitale de l'émeute », sous-titré « Appel à la révolution, Black Bloc et Gilets jaunes ». On peut donc s'attendre à ce que samedi, les ultras cherchent une fois de plus à créer le trouble, à s'organiser en Black Bloc pour affronter les forces de l'ordre, à se livrer aux dégradations et à la violence qui est leur seul horizon et d'ailleurs au fond leur seul point commun. Peut-être même est-ce leur seule revendication. Je n'en dirai pas plus, mais ces éléments suffisent à montrer qu'à nouveau la menace est sérieuse et appelle un dispositif renforcé.
Et les alentours de Notre-Dame seront interdits aux manifestants, tout comme les Champs-Élysées. Quant à Emmanuel Macron, il rendra finalement ses conclusions au grand débat lors d'une conférence de presse jeudi prochain, en fin de journée, annonce il y a quelques instants de l'Élysée. Des forces de l'ordre mises à rude épreuve, donc depuis des mois, des centaines de policiers se sont rassemblés devant leur commissariat aujourd'hui pour rendre hommage à leurs collègues morts cette semaine. Les suicides s'enchaînent en fait. On en dénombre 28 depuis le début de l'année, dont deux rien qu'hier, notamment à Montpellier, où 400 agents ont répondu à l'appel des syndicats. Des policiers, Louise Thoman, encore sous le choc de la mort de leurs collègues.
30 minutes de silence dans une ambiance lugubre et grave. Elle était très aimée, me confie une policière. Au milieu de la foule, on voit le patron de la police montpelliéraine. Une présence qui passe mal aux yeux de Yves Fonce, secrétaire départemental de Unité SGP Police.
On se sent aussi mal qu'avant cette cérémonie. Ça ne va pas passer comme ça. D'autant plus, on a en face de nous des personnes qui n'étaient pas forcément désirées lors de cette cérémonie. Et pour certains, ça a été mal perçu.
Vous pensez à qui, par exemple ?
Au chef de service, hein, et au directeur également, parce qu'ils sont ciblés quelque part. Et pour nous, il y a une part de responsabilité. On se demande si ça, leur présence était légitime, c'est tout, point.
Les fonctionnaires regagnent leurs locaux par petits groupes. Aucun d'eux ne veut s'exprimer au micro. L'intersyndicale dénonce le management des effectifs. David Leroux, du syndicat Alliance.
Maintenant vient le temps de la détermination et de l'exigence face à ce fléau du suicide qui ne doit pas être une fatalité. Nous demandons tout simplement des états généraux de la police et une rénovation complète de notre administration. Aujourd'hui, la hiérarchie ne doit plus devenir une annexe d'un cabinet comptable, uniquement des chiffres, des matricules. Et que cela passe évidemment par des moyens, par du respect, de la reconnaissance.
Il rappelle que depuis le début de l'année, un policier s'est suicidé tous les 3 jours.
Louise Thoman. De la police à la justice, et un procès qui se renverse et devient une charge contre le plaignant. Denis Baupin a perdu face aux journalistes qui avaient donné la parole à des femmes l'accusant d'agression sexuelle et de harcèlement. France Inter qui était visée, Mediapart et ses femmes sont relâchées. Accès. Le tribunal correctionnel de Paris condamne même l'ex-député écologiste à verser 500 euros à chacun des prévenus qui l'ont demandé pour procédure abusive. Celles qui ont dénoncé le comportement de Denis Baupin sont ce soir soulagées. Jean-Philippe Deniaud a recueilli leurs premiers mots à la sortie de la salle d'audience.
C'est la fin de 3 ans de cauchemar, le premier jour du reste de notre vie en fait. Cette décision, c'est aussi la fin de l'ardoise magique de la prescription. La fin de cette procédure en diffamation pour museler les femmes. Donc, mesdames, on est des êtres humaines, on est dignes, on est fortes, allez-y, ayez confiance en vous. Et nous, on est fiers de nous toutes, en fait, et que la justice était juste.
Ce qu'on voulait, c'était vraiment donner le signe pour toutes les jeunes femmes, quel que soit le milieu professionnel où elles se trouvaient, qu'elles pouvaient se battre, qu'il ne fallait plus avoir peur de parler, qu'il fallait continuer à se confier. Et que la justice, à partir de maintenant, pourrait les écouter et serait capable d'entendre le message. Donc maintenant que nous avons cette reconnaissance, à nous de continuer partout dans tous les milieux.
Victoire, victoire, victoire.
Voilà des paroles recueillies par Jean-Philippe Deniaud. Alerte aux arnaques pour Notre-Dame. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour escroquerie en bande organisée. La Fondation du patrimoine a porté plainte car son nom était usurpé pour collecter des dons. Les sollicitations se font par téléphone ou par mail. Soyez généreux, mais vigilants donc. À Nice, la justice enquête sur l'agression d'un militant de Roya Citoyenne, l'association d'aide aux migrants. L'homme héberge des étrangers qui viennent de passer la frontière entre l'Italie et la France. Le week-end dernier, 15 personnes ont débarqué chez lui, certaines armées. Les assaillants ont détruit son véhicule et brisé toutes les vitres de son appartement. Ils l'ont frappé, raconte son association.
Le président Macron continue de soutenir les forces kurdes en Syrie.
Il a reçu à l'Élysée une délégation aujourd'hui de ses combattants en première ligne contre Daesh. Les Kurdes s'inquiètent d'une démobilisation des grandes puissances mondiales en Syrie. Christian Chesneau, vous étiez à cette rencontre et les Kurdes ont besoin de la France à plus d'un titre.
Les Kurdes syriens comptent leurs amis, car l'équation sur le terrain est en train de changer. Daesh a été défait dans son dernier bastion de Baghouz et un retrait militaire américain se profile à l'horizon. Les Kurdes redoutent d'être abandonnés à leur sort. La France est donc pour eux un allié précieux. Emmanuel Macron a promis qu'un soutien financier serait alloué pour répondre aux besoins humanitaires des populations civiles. Mais Abed Marbash, coprésident de la région du nord-est syrien, veut aussi un coup de pouce politique.
Nous avons demandé au gouvernement français le soutien de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie d'un point de vue politique. Et puis nous avons expliqué aux autorités françaises la nécessité d'aider à la mise sur pied d'un tribunal international pour juger les terroristes de Daesh. C'est un sujet à l'étude et en discussion. Le nombre de détenus dans nos prisons, ceux qui sont des combattants, est d'environ 6000 personnes.
Ces prisonniers de Daesh sont une carte maîtresse dans le jeu des Kurdes syriens, car les pays dont sont originaires ces djihadistes, à commencer par la France, ne sont pas pressés de les récupérer. Les juger sur place donnerait à l'administration autonome du nord-est de la Syrie une forme de reconnaissance politique.
Vendredi, jour de manifestation en Algérie, c'est une habitude. Pour la 9e semaine d'affilée, les Algériens, toujours très nombreux, ont marché pour réclamer la fin du système, le départ de tous les dirigeants rattachés de près ou de loin à la présidence Bouteflika. Ils protestent contre la transition mise en place depuis la démission forcée du vieux Raïs. Ce week-end de Pâques, ensoleillé, qui plus est synonyme pour beaucoup de départ, les routes s'annoncent chargées, d'où l'appel à la prudence, surtout après la publication des très mauvais chiffres de la sécurité routière. Le nombre de morts bondit de plus de 7% en mars, 250 tués sur les routes le mois dernier. C'est terminé pour Novak Djokovic au Masters 1000 de Monte Carlo. Numéro 1 mondial a été sorti en quart de finale par le russe Daniil Medvedev, l'espoir du tennis mondial qui confirme donc. Bonsoir Fabrice Agral.
Bonsoir.
Alors on n'a pas reconnu Djokovic cet après-midi, hein.
Non, c'est vrai que la défaite de Djokovic interpelle quelque peu le Serbe depuis son sacre à Melbourne à l'Open d'Australie en janvier dernier. N'est plus tout à fait le même joueur, il faut bien le reconnaître. Il est moins serein, plus nerveux, souvent agacé. Il ne donne pas l'impression de prendre du plaisir sur le court. Il est rapidement résigné, comme s'il n'était pas concerné par ce qui lui arrivait. Sa concentration vacille, elle est fluctuante. Alors, il s'agace, il se frustre, il s'énerve. Novak Djokovic n'a rien du joueur invincible, vainqueur des trois derniers tournois du Grand Chelem. Le Serbe a l'air tout simplement contrarié. Une situation qui ressemble à une crise de confiance, comme celle qui a gâché sa vie de joueur durant un an et demi juste après son titre remporté à Roland-Garros en 2016. Djokovic avait repris toutefois le fil de sa carrière il y a un an, mais aujourd'hui son attitude est suspecte. Mais tout ça, c'est peut-être lié aussi à des problèmes extra-sportifs qui viennent le perturber. Djokovic s'investit beaucoup dans l'avenir du tennis. Il use beaucoup d'énergie en coulisses dans des réunions destinées à changer la gouvernance de son sport dans un climat d'hostilité peu propice évidemment à la sérénité.
Effectivement, merci Fabrice Abgral au Masters 1000 de Monte Carlo.
C'est le printemps à Bourges et c'est aussi la prescription culturelle de ce soir.
Et le concert à ne pas manquer, si vous êtes dans les parages ce soir, c'est un clin d'œil au film sur les débuts de la lutte contre le sida. 120 battements par minute de Robin Campillo, Grand Prix à Cannes et multi-césarisé. Bourges a eu l'idée de convier à l'auditorium Aloïse Sauvage, musicienne et actrice dans le film. Et puis Arnaud Rebottini, l'auteur de la bande originale Mathieu Culeron.
Après son César pour la musique de 120 battements par minute et le succès du long métrage, Arnaud Rebottini propose une création musicale autour du film avec un concept sobre et fort.
C'était l'idée de ne pas être caché derrière le côté musique de club, le remix de Bronski Beat, qui sont des grosses choses parce que très très populaires, mais d'essayer de montrer tout le travail qu'il y avait d'écriture avec le groupe qui s'appelle le Don Von Club maintenant, de musiciens avec qui je travaille depuis un petit moment sur les différentes BO que j'ai pu faire, notamment celle du film précédent de Robin Campillo, Eastern Boys. Et voilà, donc j'avais envie de retrouver ça sur scène et de retrouver la dynamique qu'on peut avoir dans une musique qui n'est pas uniquement formatée pour le clubbing.
Le film de Robin Campillo était une source d'inspiration parfaite pour le producteur de musique électronique.
C'est un film finalement assez romantique. C'est une histoire d'amour. Deux êtres sont séparés par la maladie, plus le côté film historique, l'aventure collective, humaine. C'est des formules qui font souvent mouche au cinéma.
La journée 120 battements par minute sera complétée par un live ce soir d'Aloïse Sauvage qui fait partie du casting du film.
Voilà Aloïse Sauvage et Arnaud Rebottini au Printemps de Bourges. Le printemps c'est jusqu'à dimanche.
Merci beaucoup pour ce journal Amélie Perrier. Allez vite profiter du beau temps dans
avec
un
plaisir.
Instant, la météo.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Alors comme ça il y a des averses dans le nord-est ce soir.
Effectivement, les cumulonimbus se sont développés, Claire, par effet d'urne. Ils lâchent actuellement de bonnes averses orageuses entre les Vosges et le Jura. Ces averses vont petit à petit intéresser la Bourgogne, la région Champagne-Ardenne, mais aussi le nord de l'Île-de-France. Elles vont dans tous les cas perdre rapidement de leur activité avec l'arrivée de la nuit.
Et demain ?
Eh bien, nous allons retrouver pas mal d'instabilité à partir de la mi-journée dans les régions centrales, précisément de la Bourgogne au Massif central et jusque vers les côtes vendéennes et charentaises. Les averses seront fréquentes, voire orageuses. Des averses orageux se produiront aussi au-dessus du relief pyrénéen. Et partout ailleurs, votre début de week-end sera bien ensoleillé, avec des températures supérieures aux moyennes de saison. Prévoyez des maximales comprises entre 19 et 26 degrés. 19 à Biarritz, 21 à Brest, 23 à Nancy, 24 à Lille et Marseille, 25 à Bordeaux et on ira jusqu'à 26 degrés à Paris.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau.